Laudetur Jesus Christus.
Regina Celi du pape François hier à l'occasion du dimanche du bon pasteur, le Saint-Père est revenu sur la figure de guide et de chef de troupeau de Jésus, invitant à être dans sa présence pour redécouvrir le secret de la vie. On y revient juste après les titres. Nouvel appel du pape pour la paix en Terre Sainte. Sur le terrain, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements sur la bande de Gaza. Ses troupes ont aussi mené une incursion dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Visite de 2 jours en Irak du président turc pour Recep Tayyip Erdogan. C'est l'occasion de parler affaires, mais surtout de se rapprocher du gouvernement irakien afin de mieux combattre le PKK, bête noire d'Ankara. La Chambre des représentants américaine a voté après plusieurs semaines de vifs débats une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Mais reste maintenant la question de l'acheminement des munitions sur le front alors que les combats s'intensifient. Ils sont devenus incontournables sur le front ukrainien. Ils ont été utilisés par l'Iran ou par Israël récemment. Les drones deviennent une arme de plus en plus commune sur les champs de bataille. Nous y revenons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Chaque année, au cœur du temps pascal, l'Église célèbre le dimanche du bon pasteur. À cette occasion, avant la prière mariale du Regina Celi hier, le pape est revenu dans son commentaire de l'Évangile sur cette image du bon pasteur. S'adressant à des milliers de fidèles et pèlerins rassemblés à Place Saint-Pierre, François a souligné que Jésus est le guide et le chef du troupeau. Il a invité à être dans sa présence pour redécouvrir le secret de la vie. Les précisions de Myriam Sandoun.
Nel Vangelo odierno, dice Gesù, il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce passage de l'évangile de Jean qui parle de Jésus a été tout d'abord rappelé par le pape. Dans son exhortation, il a remonté le temps, l'époque du Christ. Être berger en ce temps-là, a-t-il déclaré, n'était pas un simple travail, mais une vie. Il s'agissait de partager les journées et nuits avec les brebis. Tout comme le berger qui connaît ses brebis, Jésus nous connaît et lorsque nous nous égarons, il nous cherche, a dit le pape. Puis de préciser que le Christ n'est pas seulement un bon pasteur qui partage la vie du troupeau, mais le bon pasteur qui a sacrifié sa vie pour nous.
Jésus est le bon pasteur qui pour nous a sacrifié la vie.
Pour redécouvrir le secret de la vie, le pape a conseillé de trouver si souvent un moment de prière, d'adoration et de louange pour être en présence du Christ. Car pour le bon pasteur qui a donné sa vie, chacune des brebis est importante, voire irremplaçable.
Et que pour lui, nous sommes tous importants, chacun de nous et tous.
Myriam Sandouno, et à l'issue de la prière, le pape a renouvelé son appel à ne pas céder à la logique des revendications et de la guerre, mais à laisser prévaloir les voies du dialogue et de la diplomatie qui peut faire tant de choses, a-t-il dit. François a également redit prier chaque jour pour la paix en Palestine et en Israël et espérer que ces deux peuples pourront bientôt cesser de souffrir. Ce qui est loin d'être le cas, le week-end en effet a été marqué par la poursuite des bombardements israéliens sur les territoires palestiniens. Alors que les Juifs célèbrent à partir d'aujourd'hui leur Pâques, le gouvernement israélien a promis de maintenir la pression sur le Hamas. Il assurait aussi que son armée se préparait aux prochaines étapes de la guerre. Les bombardements ainsi visés sans relâche la bande de Gaza où les morts continuent de s'accumuler. Les actions militaires israéliennes ont aussi visé la Cisjordanie où les colons israéliens multiplient aussi depuis plusieurs jours les actes de violence envers les populations palestiniennes. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Les bombardements israéliens restent particulièrement violents dans la région centre de la bande de Gaza, ainsi que dans la ville du sud de Rafah, où le gouvernement de Benjamin Netanyahou reste déterminé à lancer une offensive terrestre. Dans la ville de Khan Younes, désormais totalement ravagée par les bombardements et les chars israéliens, les équipes de secours sont toujours à la recherche de 500 personnes, dont on ne sait pas si elles ont été tuées ou arrêtées par l'armée israélienne. 210 corps ont été retrouvés ces derniers jours dans des fosses communes. En Cisjordanie occupée, l'escalade israélienne se poursuit, avec notamment 14 personnes tuées ces derniers jours lors d'une vaste opération dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de la ville de Toulkarem. Au moins 3 personnes ont été tuées hier, dont 2 jeunes à un checkpoint dans la région sud de Hébron. Les colons israéliens appuyés par l'armée continuent pour leur part de semer la terreur dans les villages, provoquant des incendies et ouvrant de plus en plus fréquemment le feu sur les familles, causant la mort de plusieurs personnes. Barcelone ces 10 derniers jours. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Une première depuis plusieurs semaines, des roquettes tirées depuis le territoire irakien ont visé hier soir une base de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. Annonce faite par les forces de sécurité irakiennes. Durant tout l'hiver, des groupes armés soutenus par l'Iran avaient mené plusieurs attaques de ce type contre les forces occidentales encore présentes dans le nord de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan ne devrait pas nécessairement parler de ces attaques lors de sa visite en Irak aujourd'hui et demain. Le président turc qui entame son premier voyage officiel chez son voisin depuis 12 ans, est à Bagdad avant de se rendre à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Plusieurs dossiers sont sur la table, la sécurité en tout premier lieu, mais aussi l'énergie et le commerce, trois domaines dans lesquels la Turquie veut renforcer sa coopération avec l'Irak. Les deux pays doivent d'ailleurs signer une vingtaine d'accords bilatéraux. À Istanbul, les précisions d'Adam Lohr.
La priorité d'Ankara dans sa relation avec Bagdad, c'est la lutte contre le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Ses bases arrières sont installées dans les montagnes du nord de l'Irak, une source ancienne de tensions entre les deux voisins. Le mois dernier, l'Irak a interdit le PKK, mais Ankara en attend plus. Objectif affiché, la création d'un centre opérationnel conjoint pour la conduite de ses opérations militaires en territoire irakien. La visite de Tayyip Erdogan vise à poser les jalons légaux d'une coopération turco-irakienne contre le groupe armé kurde. Le président turc vient aussi parler d'hydrocarbures, un peu plus d'un an après avoir interrompu les flux de l'oléoduc Irak-Turquie. En cause, une décision arbitrale condamnant Ankara pour des exportations de pétrole de la région du Kurdistan sans le consentement du gouvernement de Bagdad. Si la visite ne devrait pas permettre de trouver une solution, la Turquie pourrait en revanche faire un geste dans le dossier sensible du partage des ressources hydriques. Bagdad lui demande depuis des années de libérer des quantités d'eau plus importante dans le Tigre et l'Euphrate. L'Irak accuse les barrages construits en amont par son voisin turc de réduire le débit des deux fleuves, contribuant aux graves sécheresses dont souffre le pays. À Istanbul, Anand Loire pour Radio Vatican.
Hier, le Sri Lanka a commémoré les 5 ans des attentats de Pâques qui avaient tué 279 personnes dans plusieurs attaques qui ont touché notamment des églises. À cette occasion, les Nations Unies ont appelé Colombo à remédier à son déficit de responsabilité à garantir la justice. Une enquête approfondie et transparente doit être menée pour découvrir les responsables de ces attentats ont poursuivi les Nations Unies. À la Cour suprême du Sri Lanka a toutefois considéré que le président de l'époque et ses hauts fonctionnaires n'avaient rien fait pour empêcher ces attentats. L'Ukraine martyrisée, c'est ainsi que le pape a évoqué ce pays où des combats acharnés opposent Russes et Ukrainiens à proximité de la ville de Tchassiv Yar dans l'Est. L'armée russe revendique la prise de la localité de 100 habitants de Bogdanivka. Les forces russes gagnent toujours ainsi un peu plus de territoire ukrainien dans la région de Donetsk. Ces combats montrent à quel point les besoins de l'armée ukrainienne sont criants en matière d'armement et de munitions. L'approbation samedi par la Chambre des représentants américaine d'une nouvelle enveloppe d'aide de 61 milliards de dollars arrive à point nommé, même si elle s'est fait attendre pendant plusieurs mois. Elle reste maintenant à obtenir le vote des sénateurs pour que les États-Unis puissent livrer leurs munitions aux soldats ukrainiens, et ce, le plus vite possible. À New York, les précisions de Loïc Lory.
Un vote possiblement demain au Sénat, la signature de Joe Biden dans la foulée et ce plan de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine pourra immédiatement être mis en œuvre. Une question de jour, assurait-on récemment au Pentagone grâce à un important maillage logistique jusqu'en Europe. Priorité numéro 1, la livraison de munitions de base sur le front ukrainien, défense antiaérienne et artillerie, et cela à partir de stocks déjà disponibles en Allemagne et notamment qui pourrait être acheminé rapidement par voie ferroviaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Washington a débloqué près de 45 milliards de dollars d'aide militaire pour Kiev, mais ces fonds étaient désormais épuisés à cause de divisions politiques à la Chambre des représentants. Envoyer ces stocks le plus vite possible en Ukraine va s'avérer critique, assurait récemment le patron de la CIA. Sans cette nouvelle enveloppe, estimait-il, la guerre aurait pu être perdue cette année. New York, Loïc Lory, Radio Vatican.
Une visite peu courante en France, celle du patriarche œcuménique de Constantinople. Bartholomée Ier est à Paris aujourd'hui et demain. Le patriarche orthodoxe doit rencontrer notamment le président de la République pour parler, entre autres, de l'Ukraine, de la protection de l'environnement. Les questions éthiques pourraient être aussi abordées. Bartholomée doit aussi se rendre au siège de la Conférence des évêques de France. Une première. Ils sont devenus incontournables sur le front ukrainien. Ils ont été utilisés par l'Iran ou par Israël récemment. Les drones deviennent une arme de plus en plus commune sur les champs de bataille. Une innovation aux multiples visages, du drone tactique de reconnaissance à ceux d'attaque, les très onéreux ou les bons marchés. Ils permettent une meilleure précision et visibilité de tir, non sans poser question. Le secrétaire général des Nations Unies s'inquiétait ainsi la semaine dernière du possible recours à l'intelligence artificielle pour viser des objectifs dans des zones très peuplées de Gaza, autrement dit, de s'en remettre à des algorithmes pour décider d'un droit de vie ou de mort. Une logique des armes que le pape François n'a de cesse de dénoncer. Léo Périapeigné revient sur les évolutions du recours aux drones et leur impact sur les guerres actuelles. Il est chercheur armement et industrie de défense à l'Observatoire des conflits futurs de l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales.
Les premiers drones, ils apparaissent dès la Première Guerre mondiale. Ça s'améliore petit à petit avec l'apparition de l'électronique moderne juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On en voit déjà pendant la guerre du Vietnam. On en voit de plus en plus pendant la guerre contre le terrorisme qui sont utilisés pour faire de l'observation, pour faire de la frappe ciblée. Et peut-être que la grosse révélation auprès du grand public, c'est la guerre au Karabakh, donc entre l'Azerbaïdjan et les séparatistes d'Artsakh, où là, vraiment, l'Azerbaïdjan met en œuvre tout un écosystème de drones très variés, allant du vieux biplan soviétique dronisé à des munitions rôdeuses israéliennes qui interagissent entre eux dans un objectif de détruire certains éléments adverses pour progresser. La guerre au Karabakh a été très courte, alors que là, la guerre en Ukraine depuis 2 ans permet en fait de faire émerger des innovations et de les appliquer immédiatement sur le terrain, ce qui fait qu'on a un progrès extrêmement rapide de ces technologies.
Entre l'Ukraine, la Russie, l'Iran, Israël, on a vraiment l'impression que c'est devenu une arme incontournable aujourd'hui.
C'est ça. C'est en fait des missions qui auparavant ne pouvaient être remplies que par des missiles de croisière assez complexes ou au moyen d'avions de combat qui sont quand même des capacités qui appartiennent au haut du spectre, qui sont chères et complexes. Aujourd'hui, vous pouvez en fait développer des systèmes beaucoup plus simples, mais qui utilisent les capacités de l'électronique civile moderne pour obtenir des capacités assez avancées pour un prix relativement limité, une expertise technique relativement limitée, ce qui rend la chose très accessible et qui rend aussi la chose pas forcément très inquiétante, mais qui doit être prise en compte par les armées occidentales, tout simplement parce qu'en fait, l'efficacité du drone en soi, elle est limitée, puisque vous avez un système qui n'est pas forcément très rapide, qui n'est pas forcément très bien armé, qui n'est pas forcément très solide. Mais en fait, comme les défenses antiaériennes, et même occidentales, et même des armées modernes en général, se sont d'abord concentrées sur des menaces du haut du spectre, des missiles balistiques, des avions de combat, des choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus performantes, eh bien, en fait, ça laisse un trou dans lequel ces systèmes-là peuvent s'infiltrer.
Pour l'instant, donc, ce sont des armes de reconnaissance ou d'attaque qui sont difficiles à combattre.
En fait, vous pouvez les combattre. Mais si vous voulez, c'est le dilemme dans lequel est la France parmi d'autres. On a des défenses antiaériennes en France qui sont des systèmes de missiles très performants, très rapides, qui sont faits pour détecter des missiles ou des avions de combat. Sauf qu'une munition pour une interception comme ça, ça va coûter plus €1 million. Parce que c'est censé détruire des systèmes qui en valent eux aussi plusieurs millions. Or là, vous pouvez avoir des drones qui sont beaucoup plus lents, qui sont aussi beaucoup plus petits, et qui coûtent moins de 100 000 €, et que vous pouvez déployer en très grande quantité. Ce qui fait qu'à la fin, non seulement vous n'aurez plus de munitions pour traiter les menaces les plus avancées, mais vous n'aurez pas forcément réussi à abattre la grande quantité de drones qui auraient été lancés contre vous.
C'est donc une nouvelle manière un peu low cost de faire la guerre, avec en plus, on imagine, des gains en vie humaine.
C'est important au sens où former un pilote d'avion de chasse, pour qu'il apprenne toutes les subtilités du métier pour être réellement efficace, il faudra plusieurs années. Là, avec un drone, vous pouvez former quelqu'un en assez peu de temps, et surtout, vous ne risquez pas de le perdre. Parce que votre opérateur, s'il est bien protégé, s'il est à distance du front, il va survivre. C'est pourquoi il y a un problème en Ukraine aujourd'hui, c'est que les pilotes ont peur de s'engager au-dessus de la ligne de front, parce qu'il y a tellement de défenses antiaériennes qui risquent de mourir. Or là, avec les drones, a fortiori sur un drone pas très cher, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, vu qu'il n'y a pas de risque pour le potentiel humain.
Et est-ce qu'un drone, ça peut changer ? Enfin, est-ce que les drones, le recours aux drones peut changer l'issue d'une guerre, par exemple ?
C'est difficile à dire pour le moment. C'est une arme, c'est donc un outil qui est là pour apporter une solution tactique. Maintenant, ça dépend comment on l'utilise. Là, ça fait 4 mois que les Ukrainiens utilisent des drones à extrêmement longue portée, avec plusieurs milliers de kilomètres de portée, pour aller frapper des infrastructures pétrolières partout en Russie. Mais le drone en soi ne sert pas à grand-chose. C'est ce que vous en faites qui va influer sur le conflit.
Interrogé par Marie Duhamel, Léo Périapeigné, chercheur à l'IFRI, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera bien évidemment à 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.